de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi de commentaires. Et ensuite, nous allons également présenter l'histoire aujourd'hui et mots d'Indonésie. L'orbite suivante, magazine culturel, l'Indonésie en couleur. Et avant de terminer cette émission, vous allez écouter une chanson indonésienne. Voilà notre programme pour aujourd'hui. Bon, chers amis, écoutons maintenant le journal et soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. La lutte contre les incendies de forêt est un moyen de lutter contre le changement climatique. La Corée du Sud et la République d'Indonésie sont des partenaires stratégiques. L'Indonésie et la Grande-Bretagne atteignent les objectifs de développement durable et se soutiennent mutuellement aux Nations Unies. L'ambassade d'Indonésie promeut les produits ferroviaires de PT Inka au Zimbabwe. L'Indonésie et la Norvège ont organisé le dialogue interreligieux et média. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. La ministre indonésienne de l'Environnement et des Forêts, Madame Siti Nurbaya Bakar, a déclaré, après le festival du climat au bâtiment Mangala Wana Bhakti à Jakarta, mercredi 2 octobre, que le nombre de stratégies de contrôle du climat était appliqué par le gouvernement. La lutte contre les incendies de forêt est un moyen de lutter contre le changement climatique.
Ruang-ruang sektor apa yang paling banyak itu kan kehutanan, pertanian. Jadi kayak kita mengatasi perubahan iklim dengan
les espaces de secteur qui sont les plus nombreux sont la foresterie et l'agriculture. Comme nous luttons contre le changement climatique en contrôlant les incendies de forêt. Et ensuite, la tourbe stocke son carbone de sorte qu'elle n'émet pas des émissions. Il peut être des dizaines de fois de la forêt. Les mangroves deviennent également notre prochain agenda. Dans le secteur de l'énergie, maintenant, il y a un B20, c'est le biodiesel qui est également très bon. B20, déjà recueilli par le président, et va améliorer à B30, puis B50, 80, etc. B qui signifie mélange de biodiesel pour l'énergie. Ce qui a été bien fait par les amis du ministère de l'Énergie et des Ressources Minérales, c'est le panneau solaire. Les panneaux d'énergie solaire installés dans des zones isolées et dans des zones urbaines. Le ministre de l'Énergie et des Ressources Minérales a déjà demandé à des bureaux d'installer des panneaux solaires, y compris le ministère de l'Environnement et des Forêts. La ministre Siti Nurbaya a également remercié tous les éléments de la nation qui avaient participé au processus préparatoire de l'Indonésie au changement climatique avec le concept de base du renforcement de la résilience nationale. La résilience nationale est formulée comme une condition dynamique de la nation indonésienne dans tous les aspects de la vie intégrée, une combinaison de ténacité et de résilience permettant de développer pleinement le potentiel de ses ressources. L'ambassadeur de Corée du Sud en Indonésie, Kim Chang-byom, a déclaré que pendant l'année dernière, Les relations entre la Corée du Sud et l'Indonésie se sont resserrées à cause des contributions à toutes les parties. L'Indonésie et la Corée du Sud coopèrent pour devenir un pays développé, comme l'a déclaré l'ambassadeur Kim Chang-byum dans ses remarques à la réception de la fête nationale et de la fête des forces armées sud-coréennes à Jakarta récemment. Selon M. Kim, l'Indonésie et la Corée sont des véritables partenaires stratégiques. Les relations entre les deux pays couvrent divers domaines, y compris la sécurité, la politique et l'économie.
We are special strategic partners. Our partnership encompasses a broad range of areas, including political security.
Nous sommes un partenaire stratégique spécial. Nos partenariats couvrent divers domaines, y compris la coopération politique, économique, sociale, industrielle et bilatérale. Le plus important, notre partenariat est basé sur le cœur à cœur et le partenariat plus étroit entre nos deux pays. L'ambassadeur Kim Chang-byum a dit que l'année dernière, le volume des échanges bilatéraux entre l'Indonésie et la Corée du Sud ont atteint 40 milliards de dollars américains et les investissements coréens en Indonésie ont atteint plus de 15 milliards de dollars américains. Lors de leur rencontre au 34e sommet de l'ASEAN à Bangkok en Thaïlande en juin dernier, le président indonésien Joko Widodo et le président sud-coréen Moon Jae-in ont convenu de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays, notamment dans les domaines de l'investissement et du commerce. Le Royaume-Uni et l'Indonésie coopèrent pour atteindre les objectifs de développement durable des Nations Unies et se soutiennent mutuellement dans la nomination du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cela a été transmis par l'envoyé spécial du Premier ministre britannique chargé du commerce avec l'Indonésie et de la communauté économique de l'ASEAN, Richard Graham, lors de la réception diplomatique organisée dans le cadre du 74e anniversaire de l'indépendance de l'Indonésie et du 74e anniversaire de l'armée nationale indonésienne à Londres. Le ministre du Conseil de l'ambassade d'Indonésie à Londres, M. Thomas Siregar, a déclaré jeudi à Antara Londres que Richard était l'invité d'honneur de la réception diplomatique. Il a déclaré que les relations entre les deux pays et le partenariat entre les deux pays dans divers domaines développés rapidement et renforcés ces dernières années. Vous écoutez toujours le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. L'ambassade de la République d'Indonésie à Harare par la mise en œuvre de la réception diplomatique a promu la vente de produits de base indonésiens et de produits manufacturés au Zimbabwe avec la priorité d'ouvrir les produits ferroviaires fabriqués par PT Inka. L'ambassadeur indonésien au Zimbabwe, Dewa M. Yuniarta Sastrawan, a déclaré que la priorité de la coopération entre l'Indonésie et le Zimbabwe en matière de revitalisation des chemins de fer renforcera l'infrastructure logistique au Zimbabwe. La déclaration de l'ambassade d'Indonésie à Harare, reçue par Antara à Jakarta récemment, a mentionné qu'à travers de la coopération en matière d'infrastructure ferroviaire, l'Indonésie peut contribuer à la réalisation de la vision 2030 du Zimbabwe de devenir un pays de classe moyenne en 2030. L'ambassadeur Dewa Yuniarta a également déclaré que la coopération permettrait de reconstruire davantage le réseau de connectivité ferroviaire du Zimbabwe pour intégrer l'économie régionale dans le sud de l'Afrique subsaharienne. La coopération entre l'Indonésie et la Norvège dans le domaine de l'humanité et de la promotion de la paix est de plus en plus étroite avec la tenue de dialogues interconventionnels et des médias à Oslo en Norvège qui complètent le dialogue sur les droits de l'homme qui est l'un des piliers des relations bilatérales entre les deux pays depuis 2002. Cela a été transmis par la fonction d'information socioculturelle de l'ambassade d'Indonésie à Oslo, Nina Evayanti à Antara récemment. Cependant, le directeur général de l'information et de la diplomatie publique du ministère des Affaires étrangères, M. Cecep Herawan, a déclaré que l'Indonésie et Norvège auparavant, les deux pays avaient engagé un dialogue monumental et très constructif sur les droits de l'homme indonésien et la Norvège avait déjà tenu des dialogues monumentaux et très constructifs sur les droits de l'homme pour les deux pays. Il a souligné que les questions des droits de l'homme et la promotion d'une culture de la tolérance étaient l'un des axes de la coopération bilatérale entre les deux pays. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Chers auditeurs, voici le commentaire ayant pour le titre « Frappé par les manifestations, le défi dur pour le Premier ministre ». L'Irak est frappé par des manifestations. Des manifestations à l'échelle nationale se sont propagées dans presque toutes les villes. Les affrontements qui ont eu lieu entre les manifestants et les forces de sécurité ont tué un certain nombre de civils ainsi que les forces de sécurité. À la suite de la mort de 9 manifestants, le gouvernement a imposé un couvre-feu à Bagdad, la capitale irakienne. Outre dans la capitale, le couvre-feu est également appliqué dans 3 autres villes d'Irak telles que Nasiriyah, Amara et Hilla. Les manifestants ont protesté contre le gouvernement du Premier ministre Adel Abdel Mahdi qui n'avait pas encore d'un an. Ils ont critiqué le gouvernement considéré comme incapable de surmonter le chômage, de corrompre et de fournir des services publics médiocres. Les manifestants, généralement constitués de jeunes, ont déclaré qu'ils souhaitent depuis longtemps améliorer les conditions économiques, ce qui a entraîné un taux de chômage élevé. Les manifestations qui se propagent dans différentes villes constituent un défi pour le premier ministre irakien Adel Abdel Mahdi. Le premier ministre a accusé les manifestants d'être à l'origine de la violence. En plus d'imposer un couvre-feu, le gouvernement a également bloqué les plateformes de médias sociaux qui, selon le gouvernement, sont devenues un outil de propager l'invitation des manifestations. Les médias ont rapporté que des manifestations avaient également eu lieu à Bassora, une région source de pétrole dans le sud de l'Irak. Contrairement à Bagdad, les manifestations à Bassora et dans les villes de Tikrit et Kirkuk se déroulent pacifiquement. En plus d'imposer un couvre-feu et de geler les médias sociaux, le gouvernement s'est efforcé de calmer les manifestations par le biais de déclarations censées répondre aux demandes des manifestants. Le 2 octobre, le Premier ministre Adel Abdel Mahdi a promis qu'il créerait des emplois avec un quota de 50% pour les travailleurs locaux dans des sociétés étrangères opérant en Irak. Les données de la Banque mondiale montrent que le chômage des jeunes en Irak atteint environ 20%. Pendant ce temps, le Premier ministre Adel Abdel Mahdi tentait de calmer les manifestations. Le Parlement irakien a condamné les mesures de sécurité considérées comme répressives. Le Parlement a ordonné une enquête sur les actions des officiers qui ont tué au moins 9 manifestants. Auparavant, il y a la réaction du Parlement. Le président irakien Barham Salih avait averti les forces de sécurité de bien traiter les manifestants. Entrant dans son mandat qui durera un an, le premier ministre irakien Adel Abdel Mahdi est confronté à de graves problèmes. Rétablir la situation en Irak, en particulier dans le domaine économique, n'est pas facile. Il doit surmonter non seulement les manifestations sur le terrain, mais également les mesures politiques prises par le Parlement et l'attitude du président Barham Salih qui sympathise avec les manifestants. Serviteur, c'était le commentaire pour ce soir.
Bonsoir à tous, voici l'histoire d'aujourd'hui, le 4 octobre. Le 4 octobre 1957, le vaisseau spatial de l'Union soviétique Sputnik 1 a été lancé à partir du cosmodrome de Baïkonour en République socialiste soviétique du Kazakhstan. Sputnik 1 devint la première mission spatiale sans pilote et le premier satellite artificiel en orbite autour de la Terre le 4 octobre 1957. Le lancement de Sputnik 1, fabriqué par l'Union soviétique au sommet de la guerre froide, choqua le monde occidental et poussa les États-Unis à lancer une course à l'espace avec l'Union soviétique aussi bien le mouvement de réforme de l'enseignement des sciences. Le 4 octobre 1999, la formation de Maluku Nord, une des provinces d'Indonésie. Maluku Nord a été officiellement créé le 4 octobre 1999 par la loi de la République d'Indonésie numéro 46 de 1999 et la loi de la République d'Indonésie numéro 6 de 2003. Avant de devenir officiellement une province, Maluku Nord faisait partie de la province Maluku, à savoir les régions Maluku Nord et Halmahera Central. Au début de son établissement, la province Maluku Nord avait sa capitale à Ternate, située au pied du mont Gamalama, pendant 11 ans, jusqu'au 4 août 2010. Après 11 années de transition et de préparation des infrastructures, la capitale de la province Maluku Nord a été transférée dans la ville Sofifi, située sur l'île Halmahera. Le 4 octobre 2000, Banten a été séparé de Java occidental d'être une nouvelle province d'Indonésie. Banten est une province de Java en Indonésie. Cette province faisait autrefois partie de la province Java occidental, mais a été séparée le 4 octobre 2000 par la décision de la loi numéro 23 de 2000. Le centre du gouvernement se trouve dans la ville Serang. Banten et le lien de connexion entre Java et Sumatra. Si elles sont liées à des positions géographiques et gouvernementales, la région Banten, en particulier la région du Grand Tangerang, à savoir la ville Tangerang, la région Tangerang et la ville Tangerang Sud, sont des zones tampons pour Jakarta. Sur le plan économique, la région Banten compte de nombreuses industries. La région de la province Banten compte également plusieurs ports maritimes développés en prévision de la surcapacité des ports maritimes de Jakarta. Chers amis, c'est l'histoire d'aujourd'hui.
Semua selalu tentangmu. Izinkan agar ku sampaikan. Ku tahu walau kau dengannya haruskah lihatlah diri ini
mencari takdirmu. Menari bersamaku, temani
merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'était une chanson intitulée Danser, chantée par Ricky Fabian. Chers amis, soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Écoutons maintenant la rubrique Mon Indonésie.
Bonsoir chers auditeurs, je vais vous présenter mon Indonésie d'aujourd'hui, intitulée « Le ministère de l'industrie imprime les ressources humaines dans l'industrie chimique certifiée internationale ». Bon, chers auditeurs, vous êtes avec moi Audrey, bonne écoute. Le ministère de l'industrie Kemenperin imprime les ressources humaines de l'industrie chimique certifiée internationale par le biais de l'enseignement professionnel appartenant au ministère de l'Industrie, notamment le lycée professionnel SMK, du collège d'analyse chimique SMK Padang et le lycée professionnel de technologie industrielle SMTI Padang. Le responsable de l'Agence de développement des ressources humaines au ministère de l'Industrie, Eko S.A. Cahyanto, a déclaré mercredi à Jakarta, 2 octobre, que les deux écoles professionnelles de Padang étaient d'excellente qualité, de sorte que la majorité des diplômes puissent travailler immédiatement avec un pourcentage de 70 à 90%. Eko, tout en regardant la remise des diplômes, compte 374 diplômés, dont 182 diplômés du SMK SMAK Padang et 192 diplômés du SMK SMTI, a déclaré il y a quelque temps que SMK SMAK Padang avait été enregistré comme un primeur d'analyste en chimie capable de se faire une très bonne réputation. Eko a expliqué que sur la base de la feuille de route de Making Indonesia 4.0, l'industrie chimique était l'un des 5 secteurs manufacturiers ayant défini des priorités de développement pour la mise en œuvre de l'industrie 4.0. Pour que le secteur puisse être compétitif à l'échelle mondiale, il faut avoir besoin des ressources humaines industrielle fiable. La SMK Padang a enregistré plusieurs succès, dont celui de devenir champion, un titre cette fois de suite au premier examen national dans la province de Sumatra occidentale, à la première place du concours provincial de compétences en chimie et à la championne générale des Olympiades provinciales de mathématiques en 2018. Les diplômés de SMK du Kemenperin ne sont pas seulement des champions dans le pays. ils sont également prêts à concourir au niveau international, car le ministère de l'Industrie leur facilite la délivrance des certificats internationaux. À la récente remise des diplômes, 98 diplômés du SMK-SMTI Padan ont reçu la certification internationale. La certification a été donnée à 49 personnes du secteur chimie industriel et 49 personnes du domaine HSEQ, Health Safety and Environment Quality, de Vapro International, ainsi qu'à 85 diplômés du Padang High School en analyse chimique avec certificat 3 en technique de laboratoire du laboratoire Hubbard en Australie. Parallèlement, le lycée professionnel SMTI prépare également des travailleurs qualifiés ayant une compétence dans le monde industriel, en particulier en chimie industrielle, spécialisée dans le traitement de l'huile de noix de coco et des huiles essentielles. Ainsi, les diplômés du secondaire sont prêts à devenir des travailleurs de niveau moyen dans l'industrie chimique et peuvent également poursuivre leurs études jusqu'au collège. Serge Littard, c'était Mon Indonésie.
Hatiku, dayaku, telah aku.
Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Vous avez écouté tout à l'heure une chanson intitulée « À cause de l'amour qui l'accompagne » chantée par Rosa. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Chers amis, maintenant nous allons vous présenter Magazine Culturel. Bonjour, bonsoir, chers amis. Vous écoutez toujours La Voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Voici un magazine culturel intitulé La danse de l'Ikurai. Du 1er au 6 octobre 2019, le festival L'Ikurai Timor a lieu à Pandan Fulan Fehan, dans la résidence de Bilu à Nusa Tenggara Est. Cet événement présente la danse de l'Ikurai, une danse traditionnelle, un type de danse de guerre typique de la région de Bilu, Nusa Tenggara Est. Les touristes qui viennent à ce festival peuvent voir les danses typiques de Nusa Tenggara Est tout en apprenant la culture de la province. Le mot danse de l'Ikurai vient de deux syllabes. L'Iku signifie maître, et Rai signifie la terre. Cette danse était à l'origine une danse pour accueillir les héros du champ de bataille et comme expression de la gratitude et de l'enthousiasme des gens pour la victoire remportée et le retour du héros en toute sécurité. Jusqu'à présent, la danse de l'Ikurai est souvent exécutée lors de cérémonies traditionnelles, accueillant des invités importants et même les spectacles artistiques et culturels. Les mouvements des danseurs et des danseuses sont différents dans cette danse de Bilu. Les mouvements de la danseuse sont dominés par les mouvements de la main, qui joue rapidement de la batterie et les mouvements des jambes. Les danseuses dansent avec des mouvements de corps en accord avec le rythme. Les mouvements des danseurs, généralement dominés par les mouvements de main jouant l'épée et le mouvement de jambes frappant au rythme des battements. Dans le spectacle, la danse de l'Ikurai généralement n'utilise pas de musique d'accompagnement. Le son de la musique utilisée provient du son de petites percussions jouées par des danseuses. Il y a aussi le son des danseurs hurlant qui rend cette danse plus vivante. Dans le spectacle, certains danseurs utilisent des épées et des danseuses utilisent tihar ou de petits tambours comme attribut de danse. Les danseuses portent généralement un long sarong qui recouvre leur corps du torse aux pieds. Les cheveux sont généralement arrondis et utilisent un serre-tête bilou. En outre, les danseuses utilisent également divers accessoires tels que des bracelets et des colliers qui sont typiques. Alors que les danseurs portent des chemises à manches longues et portent le sarong. Sur la tête, les danseurs utilisent également un bandeau de bilou. Pour la danse, les danseurs portent généralement une épée dans la main droite et un fourreau dans la main gauche. C'est un magazine culturel de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
berikan ku kesempatan untuk memilikimu. Ku mencoba menaklukkan hatimu, namun kau berpaling dan menolak cintaku. Ku mohon izinkan diriku mengisi hatimu untuk sejenak saja, walaupun ku tahu kau sudah ada yang punya. Ku hanya ingin engkau tahu betapa ku mencintai dirimu. Berikan ku kesempatan untuk memilikimu. Izinkan bersamamu mengisi hatimu, walau takdirmu tak jadi milikku. Sejenak saja, walaupun ku tahu kau sudah ada yang punya. Aku hanya ingin engkau tahu betapa ku mencintai dirimu. Berikan ku kesempatan, berikan ku kesempatan, berikan ku kesempatan untuk memilikimu.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Vous avez écouté tout à l'heure une chanson intitulée Donnez-moi une chance, chantée par S5. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Chers amis, pour l'heure suivante, voici l'Indonésie en couleur.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici l'Indonésie en couleur et pour titre, trois films indonésiens sont projetés au Festival international du film de Tokyo 2019. Trois films indonésiens seront projetés au Festival international du film de Tokyo 2019 qui aura lieu du 28 octobre au 5 novembre à Rompong Hills et à plusieurs autres endroits à Tokyo au Japon. Le premier film, intitulé Hiruk Pikuk Si Alkisa ou La science de fiction du réalisateur Joseph Anginun. Le film fait partie du programme World Focus qui présente des œuvres primées dans des festivals de films internationaux et n'a jamais été présenté au Japon. Le film Hiruk Pikuk Si Alkisa a été projeté pour la première fois et a remporté un prix spécial de mention au Festival international du film de Locarno. Ce film sera également présenté en première au niveau asiatique au Festival international du film de Busan du 3 au 12 octobre 2019, dans le cadre du programme A Window on Asian Cinema. Hiruk Pikuk Si Alkisa qui raconte l'histoire de Siman, un jeune homme de Yogyakarta qui a vu le tournage du film sur l'atterrissage humain sur la Lune par une équipe étrangère sur la plage de Brancritis à Yogyakarta dans les années 60. Il a été arrêté et sa langue a été coupée. Après cela, Simon a vécu sa vie avec le mouvement lent anti-gravité comme astronaute dans l'espace. Les villageois pensaient que Simon était fou parce que Simon avait construit un bâtiment semblable à une fusée derrière sa maison. Deux autres films sont venus de réalisateurs Joko Anwar et Randy Korompis qui seront projetés au programme Crosscut Asia Tagar 06 Fantastic Sud-Est Asia. Ce programme annuel met en lumière des films fantastiques avec le genre thriller qui reflète les caractéristiques des habitants de la région de l'Asie du Sud-Est. Le film Joko Anwar qui sera projeté est Folklore A Mother's Love sur le fantôme de Wewe Gombel, tandis que Randy Korompis a présenté le film d'action Foxtrot 6 sur la situation d'Indonésie à l'avenir. Le Festival du film de Tokyo de cette année présente également 14 films sélectionnés qui seront en compétition et seront jugés par les jurys composés de l'actrice chinoise Zhang Ziyi comme chef avec le producteur américain Bill Gerber, la productrice et l'actrice française Julie Gayette, le réalisateur danois Michel Noor et le réalisateur japonais Ryuichi Hiroki. Au cours de 9 jours d'organisation, 170 films seront projetés au festival de cette année. Chers auditeurs, c'était l'Indonésie en couleur pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Di tempat ini, di tempat pertama aku menemukanmu. Kembali ku datangi tempat ini, tapi ku dengan yang lain.
Samar ku dengar suara yang selalu ku kenal, itu suaramu. Kau terlihat bahagia bersamanya, dia kekasihmu.
Terdiam saat gadis kecil berlari ke arahmu. Gadis kecil yang miliki mata indah persis seperti matamu.
Dan kau
aku pun tersenyum dan ku genggam tangan di sampingku,
dan kau genggam tangannya
dan berkata lirih di dalam hati tentang semua ini. Andai dulu kau tak pergi dari hidupku, takkan mungkin ku temui cinta yang
berat bibir.
rasakan kita berdua meski lewat luka.
Voice of Indonesia.
Saat ku jumpa dirinya di suatu suasana, terasa getaran dalam dada. Ku coba mendekatinya, ku tatap dirinya. Oh, dia sungguh mempesona. Ingin aku menyapanya, menyapa dirinya, bercanda tawa dengan dirinya. Namun apa yang ku rasa, aku tak kuasa. Aku tak tahu harus berkata apa. Inikah namanya cinta? Oh, inikah cinta? Cinta pada jumpa pertama. Inikah suasana berbeda? Oh, getaran itu masih ada. Aku dekati dirinya, ku tatap wajahnya. Oh, dia tetap mempesona. Ingin aku menyapanya, menyapa dirinya, bercanda tawa dengan dirinya. Namun apa yang ku rasa, aku tak kuasa. Aku tak tahu harus berkata apa. Inikah namanya cinta? Oh, inikah cinta? Cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta? Oh, inikah cinta? Terasa bahagia saat jumpa. Inikah namanya cinta? Oh, inikah cinta? Cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta? Oh, inikah cinta? Terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya.
Rindu terasa di kala diri ini ingin jumpa.
Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Et vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers amis, nous continuons notre programme avec les informations musicales.
Voice of Indonesia de l'Indonésie à tout le monde, avec moi Tiwi. Cette fois-ci, je vais vous présenter une chanson de la région de Bugis, Sulawesi du Sud, intitulée Sajang Renu. En langue de Bugis, Sajang Renu signifie le chagrin d'amour à cause du désir ardent. La chanson qui était populaire à Sulawesi du Sud en 1990 a été composée par Yusuf Alamoudi. Elle contient des messages profonds. Pour les hommes, cette chanson dit aux hommes de ne pas promettre de marier une femme s'il n'est pas sérieux. Tandis que cette chanson dit aux femmes de ne pas facilement faire confiance aux hommes. Cette chanson est aussi la chanson thème ou la bande originale du film intitulé Silarian, sorti en 2017. Alors, chers auditeurs, écoutons Arctu Tonic et Ika KDI chantant la chanson dont le titre est Sajang Renu. Bonne écoute!
Oh,
chers auditeurs et auditrices dans le monde entier, c'était l'émission quotidienne en français pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Au revoir.